Vous écoutez La Grenouille, c'est une émission spéciale consacrée à la 10e édition du Festival international du film d'Aubagne, un festival dont on s'est fait l'écho sur La Grenouille toute cette semaine à travers des émissions spéciales et des chroniques. C'est le cas encore ce soir, donc pour la petite heure qui vient. Et demain, à 11h, demain dimanche, vous pourrez entendre une réalisation de Camille Lucchino du Petit Peuple des Ondes qui a fait une traversée sonore de ce festival donc, dans le fil thématique depuis 10 ans et la relation de la musique à l'image de cinéma. Donc cette petite heure qui vient, nous allons la passer en compagnie de Andrea Santana et Jean-Pierre Duré. Ils sont tous les deux réalisateurs du film Puisque nous sommes nés, un film documentaire qui a été tourné au Nord-Est, une région du Brésil dont vous avez peut-être entendu parler, à la fois pour la qualité de ce cinéma-là et à la fois aussi parce que Jamel Debbouze fait partie du producteur et qui s'est fait l'écho de ce film à chaque fois qu'il pouvait. Donc, bonjour à tous les deux, Andrea Santana et Jean-Pierre Duré.
Bonjour.
Jean-Pierre Duré, vous êtes fils d'agriculteur. Oui. Vous êtes devenu ingénieur du son pour le cinéma après ça. Vous avez travaillé notamment avec Jacques Doyon, avec les frères Dardenne, avec Maurice Pialla, avec Strobé Huillet, avec Jacques Audiard, avec Claude Chabrol, avec Agnès Varda, avec Cédric Kahn, etc. Arnaud Despalières, récemment aussi, sur son film Parc,
oui.
C'est ça ?
Oui, Parc et Adieu aussi avant.
Et oui. Adieu avant. Donc vous avez travaillé à peu près avec tous les réalisateurs intéressants du cinéma.
Nicole Garcia aussi.
Nicole Garcia,
Agnès Jaoui.
Daniel Thompson.
D'autres aussi, mais voilà. Ouais.
Ouais. Et vous avez commencé par le théâtre avec Armand Gatti, je crois.
Voilà, exactement.
Alors comment ça s'est fait le passage ? Vous étiez en Savoie, fils d'agriculteur, donc ouais. Sur l'exploitation de vos parents, je ouais. crois. Ouais. Comment s'est fait la rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Armand Gatti ?
Eh bien... Bon, à cette époque-là, disons que c'était un peu après, dans les années 70, quoi. J'étais assez touché par tout ce qui s'était passé dans les années 68, hein, avec le mouvement de mai 68, même si j'étais un peu jeune à cette époque-là. Et puis donc, j'ai commencé à travailler en usine. Et puis ensuite, tout d'un coup, j'ai été mis au chômage. Et j'ai lu un article dans Libération, à cette époque-là, sur Armand Gatti, qui travaillait chez Peugeot, Sochaux, autour d'un grand projet culturel et de vidéo. Et donc je lui ai écrit, et c'est comme ça qu'a démarré mon travail avec lui, parce que ça me plaisait beaucoup, je l'ai rencontré, il a fait appel à moi ensuite pour d'autres projets, je suis resté 6 ans au travail avec lui.
Et vous faisiez quoi comme travail avec lui ?
Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, on faisait des projets qu'on appelait de création collective. Hein, on travaillait sur des thèmes généraux, des thèmes très variés, Et on faisait à la fois, c'était des thèmes un peu multi, enfin des projets multiculturels, et on faisait du théâtre, de la vidéo, on faisait des spectacles, on faisait plein de choses, des spectacles de marionnettes, plein de choses comme ça autour d'un thème global dans une région donnée, dans un CES ou dans une région, ou voilà. Et après, à un moment donné, il a écrit un scénario pour le cinéma, il a eu l'avance sur recette, donc on a pu le tourner. Et à ce moment-là, pour nous, les gens du cinéma étaient payés. Nous, on ne se payait pas. On était, pour ainsi dire, des militants. Et il a dit, bon, j'embauche un cadreur, un directeur photo, un ingénieur du son. On vous paye à votre tarif, mais vous prenez les gens avec qui je travaille. Et moi, on m'a dit, toi, t'es grand, tu feras la perche. Mais parce que j'avais aucun rapport au son particulier. Et j'avais 28 ans à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon premier travail avec un ingénieur du son qui est devenu un ami, qui était un grand ingénieur du son, issu vraiment du son direct, hein, et qui aimait beaucoup le cinéma. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris, enfin, qui m'a enseigné, disons, ma première leçon fondamentale qui m'a beaucoup servi ensuite. Il m'a dit, voilà, parfois, dans un tournage de film, le son, on ne peut pas bien le faire. Mais je veux dire, parce qu'à un moment donné, ce qui compte, c'est l'image, c'est ce qu'on filme, c'est ce que cherche le metteur en scène. Donc si on n'arrive pas à bien faire le son, tant pis. Ce qui compte, c'est le film. Bon, ça, c'était une leçon très importante pour moi. Et puis ensuite, voilà, après, je me suis accroché parce que j'avais déjà 28 ans, j'avais vécu d'autres choses, donc je savais exactement pourquoi je faisais ça. Et j'étais plus motivé, disons, que les gens qui démarrent juste après le bac, font l'école, et puis voilà.
Andrea Santana, vous, vous êtes urbaniste de formation, c'est ça ?
Architecte, oui.
Architecte.
Et urbaniste.
Et vous êtes passé au cinéma en rencontrant Jean-Pierre.
Oui, voilà, c'est la rencontre avec Jean-Pierre.
Comment ça s'est passé ?
On s'est rencontrés, on a eu envie de faire quelque chose autour de nos deux coutures. Et puis on s'est dit, voilà, un film au Brésil sur les paysans, puisqu'il venait d'un milieu paysan. Et moi, je suis originaire du Nord-Est. Du Brésil. Alors voilà, on a décidé de on est parti à l'aventure un peu pour faire notre premier film, Romance de terre et d'eau.
C'était dans les années 2000, au début
2000, des... En 2000, ouais. Oui. Et voilà, après, c'est, moi, je venais de l'architecture, rien à voir avec le cinéma, même si ça travaille avec l'espace, l'humain et tout. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce film avec lui. C'était mon grand maître, lui. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Mais aussi, on a appris aussi tous les deux beaucoup en faisant les documentaires qu'on fait. Depuis déjà presque 10 ans, c'est notre troisième film.
D'accord. Troisième film dont sorti le 4 février dernier, puisque nous sommes nés. On aura l'occasion d'en parler un petit peu au fil à mesure de cette écoute musicale, puisque nous vous avons invité à faire une petite liste pour suivre cette thématique cinéma et musique au Festival international du film d'Aubagne, donc de faire une petite liste de morceaux de musique, de chansons qui vous intéressaient. Ça sera un prétexte à discuter un peu du rapport de la musique au cinéma, du son et tout ça. Et vous avez choisi 5 titres chacun. On va commencer par les choix de Jean-Pierre Duré, les 5 premiers, puis on continuera avec ceux d'Andrea. Donc bon, vous avez fait des choix de chansons militantes, engagées, entre guillemets. C'est pour être raccord peut-être avec les manifs de jeudi, je ne sais pas. On va écouter La Butte Rouge, Le Temps des Cerises, Le Déserteur. Après, des Tough Cats, ça, vous nous direz, parce qu'on ne connaissait pas, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. On écoutera aussi Césaria Evora, et puis un extrait de la bande originale du film Bamako d'Abderrahmane Sissoko. Mais pour commencer... La Butte Rouge, donc je vous propose de l'écouter. La Butte Rouge a été chantée par de nombreux interprètes. Là, on a trouvé La Butte Rouge interprétée par Yves Montand. On l'écoute et on en parle après.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom. Baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui à des vignes il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, y faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles égales, doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Maintenant il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains.
La butte rouge sur Radio Grenouille, chantée par Yves Montand, premier choix de Jean-Pierre Duré pour cette playlist. Alors, c'est une chanson qui a été chantée par de nombreux interprètes, dont Renaud, Lenny Escudero ou Zebda, pour parler plus près. C'est pourquoi cette chanson, Jean-Pierre Duré ?
Oui, alors moi, mes choix, je les ai faits en fonction de mon histoire et en référence aussi à d'où je viens et particulièrement à mon père. Voilà, La butte rouge, c'est une chanson qu'il adorait. Mon père est un tout petit paysan en Savoie. C'est un choix qui peut paraître ringard pour les jeunes d'aujourd'hui, j'en suis conscient. Mais en même temps, ce sont des chansons d'origine populaire et qui racontent des événements tragiques, hein, de la mémoire ouvrière. La butte rouge, c'est quand même la Commune de Paris. Donc mon père adorait cette chanson. Il était totalement antimilitariste. Il a fait la guerre de 39-45. Enfin, il a fait la guerre. Il a fait aucune guerre. Je veux dire, il a été convoqué sur le champ de bataille et puis il a été prisonnier à Dunkerque. Il n'a pas tiré un seul coup de fusil et il a été prisonnier 5 ans. Donc ce garçon qui avait la responsabilité de, puisque son père était déjà mort et entre autres à cause de la guerre de 14-18. Et qui avait la responsabilité de toute une famille d'enfants, donc de la ferme, et qu'on convoque à déjà tardivement 28 ans, 29 ans pour partir sur ce champ de bataille et qui fait 5 ans prisonnier. Donc, et mon père en est revenu profondément antimilitariste et j'aimais beaucoup ça chez lui. Donc c'était une de ses chansons fétiches, comme Le Déserteur que j'ai choisi ensuite. Voilà, et cette chanson, si vous voulez, elle a quelque chose de beau parce que il y a aussi une autre raison. Une des raisons pour lesquelles je fais du cinéma, c'est défendre l'idée que les petits paysans ont une culture profonde. Et trop souvent, si vous voulez, quand j'ai eu 15 ans, je m'en suis aperçu de ça, on considérait les petits paysans comme des gens passéistes, archaïques, anti-progrès, qui ne valent plus la peine, enfin que c'est pas intéressant ce qu'ils portent en eux. Hein, donc il fallait faire place à la grande agriculture productiviste, à la monoculture, vers le progrès, hein, ce fameux progrès qui devait sauver le monde. Bon, lutter contre la faim dans le monde, enfin toutes ces choses-là qu'on nous a racontées et qui sont de purs mensonges, puisqu'aujourd'hui on voit bien que notre monde non seulement n'est pas juste, est profondément injuste, et qu'ensuite il y a plus d'un milliard et demi de population qui vivent avec moins d'un euro par jour. Et mon père, enfin je veux dire, toutes ces choses-là, je les ai vécues, ressenties profondément en travaillant avec mon père, qui était une grande figure d'humaniste, très humble, voilà, et en même temps qui avait cette passion pour la terre, et qui adorait chanter. Et qui adorait chanter comme dans la grande tradition des petits paysans, on adore chanter. Dans la grande tradition des pauvres d'ailleurs, hein, la voix, c'était quand même un moyen d'expression extraordinaire. Et on n'avait pas souvent l'occasion de faire des fêtes parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais quand on se retrouvait, forcément, tout passait par les chansons. Et chacun chantait, enfin moi dans mes souvenirs, soit des mariages, des fêtes, n'importe quoi, tout le temps, tout le monde chantait. Donc voilà, et ça. Bon, et entre autres, dans cette chanson, pardon, je parle beaucoup, mais dans cette chanson, il y a aussi ouvriers paysans, voilà. Et ça, c'est formidable parce que trop souvent, on a opposé les ouvriers aux paysans. Et cette terre qui bon, quand il avait 85 ans, je l'ai aidé à déraciner sa vigne. Donc c'était un petit paysan, on avait de tout, on avait des vaches, on avait déjà, enfin, mais sur 6 hectares, quoi, hein, donc très pauvre. Mais quand il est devenu un peu plus âgé, il ne voulait pas, enfin, il avait peur de plus pouvoir cultiver sa vigne, et il avait peur que sa vigne se dégrade et que les gens passant devant sa vigne voient que puissent dire « Ah, mon vieux Jean Duret, dis donc, ça va plus bien, hein, il y a des herbes folles, il y a tout ça ». Donc avant que ça arrive, il a préféré déraciner sa vigne. Je l'ai filmé, ça. Je l'ai filmé, avec, à l'époque, j'avais un petit truc vidéo comme ça. Je me souviens, il faisait très froid, tout ça. Bon. Et puis, au lieu de l'aider à déraciner les cèpes, je passais un peu de temps à essayer de filmer. Et à un moment donné, il s'est énervé, il m'a dit « Ouais, toi, tu filmes, c'est pas tes tripes que tu arraches, c'est pas tes entrailles que tu arraches. » Bon, et ça m'a... Effectivement, ça m'a vraiment touché. Et à un moment donné, pour leur 60 ans de mariage, à mes parents, on a fait un petit montage avec Andrea, avec toutes les images que j'avais un peu amassées sur eux. Et sur cette image, enfin sur ces images que j'avais faites de pieds de vigne qui ressemblaient un peu à des, voilà, des pieds de vigne un peu morts, puisque c'est, voilà, on les coupait ensuite. J'ai mis cette chanson, La Butte Rouge. Et sans d'ouvriers, sans de paysans. C'est vrai que le vin aussi. C'est, on dit, c'est un peu le sang de la terre. Bon, là, voilà, toute cette chanson, là, c'est toutes ces choses, quoi. Et puis, sans oublier que, quand même, dans cette chanson, il y a quand même une violente charge contre les fauteurs de guerre, hein, qui, eux, s'en foutent, hein, qui ont donné l'ordre de partir en guerre. Et enfin, on en a un bel exemple, hein, de ces va-t-en-guerre, hein, avec Bush et sa guerre en Irak, qui est quand même une tragédie totale, on le voit bien, hein, quelques années après, qui a foutu un pays à feu et à sang. Et pourquoi ?
On va rester dans le rouge avec votre second choix pour cette playlist, c'est Le Temps des Cerises. Alors là aussi, une chanson rattachée fortement à la commune de Paris, et celle-là aussi est chantée par Yves Montand.
Cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Le temps des cerises, donc second choix du réalisateur Jean-Pierre Duré pour cette petite heure d'écoute musicale. C'est votre interprétation préférée par Yves Montand de cette chanson
ou... Oui, j'aime beaucoup Yves Montand. Hein. Bon, là, je vais parler très courtement, là, parce que sinon ça va être... Voilà.
Mais, on va essayer d'écouter tous les morceaux de musique et justement. Ça serait bien qu'on écoute ceux de...
Voilà, exactement. Ouais. Non, mais bon, ça rejoint ce que j'ai déjà dit avant, ça ne fait que le compléter. Si vous voulez, c'est dans la grande tradition des cultures populaires, les chansons sont toujours à double sens, c'est-à-dire, enfin, elles ont des fonds cachés, hein, qui sont effectivement, on aime et aussi on a des peines, hein, peines cruelles, mais aussi les amoureux, le temps des amoureux, une cerise peut représenter beaucoup de choses. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans la culture populaire, parce que le peuple finalement affronte de manière assez crûment, hein, une vie parfois difficile, mais il sait aussi y trouver des joies plutôt simples et qui surtout se parlent les uns aux autres, quoi, voilà.
Et ce sont deux chansons qui figurent dans le Van Gogh de Maurice Pialat, film sur lequel vous avez fait le son.
Ah bah alors là,
vous en rappeliez pas.
Je ne m'en rappelais pas. Si, en fait, la butte rousse, je n'y ai pas pensé quand j'ai fait le choix, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait le temps des cerises. Bon, alors ça, c'est superbe, ouais, c'est vrai.
Bon, Le Déserteur, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure,
c'est
Boris Vian, chanté par Boris Vian.
Voilà. On peut la zapper. Comme
on la zappe pour essayer d'écouter ce que vous avez choisi. On passe directement alors à autre chose, il me semble, a priori, The Tough Cats.
Ouais, Tough Cats.
Qu'est-ce que c'est, les Tough Cats?
Les Tough Cats, c'est parce que, si vous voulez, j'arrive là, j'étais tout seul, André n'était pas avec moi sur ce coup-là, mais on est allé à Mexico avec notre film, là, sur un festival... où on était invité, d'ailleurs on a eu le prix du documentaire là-bas, et ensuite j'avais été invité par un festival en plein Missouri, à Columbia, aux États-Unis. Et alors, c'était extraordinaire, parce que on vient d'avoir le président Obama, on a entendu Yes We Can, et puis ce festival donc est en plein milieu des champs, si on peut dire, hein, dans le Missouri, donc c'est du côté de la Louisiane, mais un peu plus à l'intérieur des terres, donc au milieu de champs verts, et pof, une ville un peu moins de 100 000 habitants, avec une université, certes, mais avec un accueil extraordinaire, une organisation incroyable, et surtout des jeunes partout. Des jeunes. Avec 500 volontaires, ils tiennent tout. Ils ont les cafés, ils ont les restaurants. On se demande presque où sont les adultes. Et donc ce festival, nous, on avait été trouvés sur Internet... C'est quand même la belle époque aujourd'hui, hein. Quelqu'un qui nous avait trouvé sur Internet en cherchant, quoi, sur des sites de cinéma, tout ça. Et il s'était obstiné, ce gars-là, à nous faire venir. Et moi, je pensais qu'il avait 45 ans. Et en fait, ce gars, il a 19 ans. Et c'est grâce à lui qu'on était invité là-bas. Alors, c'est pas pour ça que j'ai choisi les Tough Cats. C'est parce que, avant chaque projet... Donc, c'est un festival qui se déroule sur 3 jours. 25 000 personnes en 3 jours. Hein, alors à ce moment-là, toute la ville est là. Hein, toute la ville est là, les adultes sont là, on soutient les jeunes, hop, les salles sont pleines, on assiste à tous les films, donc c'est une programmation qui est choisie dans tous les États-Unis. Je crois que j'étais à peu près le seul étranger, il y a une centaine de metteurs en scène de tous les États-Unis, j'ai fait des rencontres formidables. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'avant chaque film, donc 5 salles dans cette ville de 5000 habitants, 5 salles de cinéma, dont une salle de 1200 places, projection extraordinaire, technique à l'américaine, hein, et avant chaque séance, on ouvre les portes, et là, vous avez de la musique en live. Des groupes de musique en live, de l'excellente musique, de la musique de la côte est, de la musique de la côte ouest, du rock de Chicago, de toutes sortes de musique avec une énergie. Mais ça fait du bien. Je veux dire, c'est des jeunes qui se défoncent. J'ai vu des batteurs. Donc les Tough Cats, c'est un groupe qui m'a fasciné. Le batteur, il est incroyable. Il est possédé par ce qu'il fait. Mais en même temps, chaque groupe de musique que j'ai entendu là-bas avait ça. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça se fait? On n'arrive pas à ça, nous, en France. Pourquoi? Et les mecs, ils sont là avant chaque film. Ils viennent gratuitement. Et on fait circuler des pots et les gens donnent de l'argent pour la musique. Donc voilà, ça m'a vraiment fasciné. J'ai trouvé qu'il y avait une énergie là-bas. Et quand Obama dit « Yes, we can », je me suis dit « Ouais, ils vont peut-être y arriver. Peut-être mieux que nous. »
Les Tough Cats sur Radio Grenouille.
Been out on the ocean. Leave town without her again. Tough cats don't take no shit. Cut off in the ship. The old man, he burned up his key. Tough cats don't have no wind. He strikes once again. Can't leave one damn thing within. Tough cats don't take no lip.
Écoutez Radio Grenouille, c'est une playlist signée Jean-Pierre Duré et Andrea Santana. On vient d'écouter les Tough Cats. Le quatrième choix de Jean-Pierre Duré, c'est celle qu'on a appelée la diva aux pieds nus, Cesaria Evora, une chanson de Cesaria Evora. Je vous laisse nous raconter.
Cesaria Evora, c'est l'occasion, disons, de parler des voix, hein, puisque mon métier, c'est quand même ingénieur du son dans le cinéma et que je suis passionné par enregistrer des voix. Et que la voix, c'est quand même ce qu'on a de plus proche, hein, de nous. C'est ce qui nous représente le mieux, ce qui nous est. C'est par là qu'on traduit finalement ce qu'on est, hein, ce que toute notre vie laisse des marques sur la manière dont on parle, sur notre voix, sur le timbre de notre voix. Et Cesaria Evora, qui est quand même un bel exemple de femme qui pendant longtemps était une petite chanteuse inconnue et tout d'un coup dont la voix explose et qui chante vraiment quelque chose d'universel, et ça c'est merveilleux avec la musique quand ça peut rejoindre vraiment des préoccupations de tout le monde. Et bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vrai.
Ça c'est une voix de chanteuse, mais il y a des voix d'acteurs qui vous ont fortement marqué de la même façon que des voix de chanteurs ou de chanteuses?
Ah bah oui, moi la voix de Depardieu, enfin j'ai eu la chance d'enregistrer quand même beaucoup de voix dans ma vie, et ouais, voilà, mais tous les acteurs ont une voix, je veux dire la manière dont ils prennent en charge un texte, la manière dont ils phrasent, la manière dont ils rythment, c'est quand même ça qui donne la vie à un film, quoi, à des dialogues, hein, qui pourraient, quand vous lisez les dialogues d'un film, des fois vous vous dites... Oh, mon Dieu, comment il va faire, quoi, pour réussir à exprimer cette chose-là, écrite, elle paraît bien terne, et parfois, vous assistez à des miracles, quoi. Et ça, voilà, j'adore ce métier pour ça.
Donc, votre métier, c'est plus ingénieur du son que réalisateur. Vous dites, mon métier, c'est ingénieur du son. Réalisateur, c'est pas un métier.
Alors, j'ai gagné, si vous voulez, les deux métiers, mais disons que le métier qui me permet de vivre, c'est quand même ingénieur du son. Et le métier qui me permet de poursuivre la chose plus personnelle, plus intime, c'est celui de réalisateur. Mais celui-là, je dois le gagner tous les jours parce que je ne suis pas né cinéphile, enfin, j'ai pas eu une culture de cinéma ou autre. Donc, si vous voulez, je viens d'un milieu quand même assez humble, comme je l'ai déjà dit, et je dois gagner. Disons quelque chose. Enfin, je me sens. C'est ce qui me permet de grandir, quoi, si vous voulez, d'être réalisateur et de le mettre au service de quelque chose que j'ai ressenti très, très jeune, quoi, hein, au service un peu aussi de ce que j'ai admiré chez mon père, chez ma mère, enfin des choses qui, je pense, aujourd'hui sont excessivement importantes dans ce monde où, encore une fois, trop de gens sont injustement mis sur la touche.
Flor Dina Esperanza, excusez l'accent, c'est Cesaria Evora.
A morrer nunca tava na ninguém mesmo só sabia já não tá morrer nunca tava na ninguém mesmo es morna es só em minha esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor esmorna e só em minha esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor na despedida vou chorar te magoa chora também na despedida vou chorar te magoa chora também es morna e só em minha esperança que já confessa.
Bon, voilà, on l'écoute pas en entier, Cesaria Evora. Je pense que la plupart des auditeurs connaissent bien cette voix et cet artiste. Pour essayer d'écouter, le challenge, c'est d'essayer de faire écouter tout ce qui a été écrit sur le papier. Donc là, on va entendre un petit extrait, le dernier choix de Jean-Pierre Duré, pour cette playlist. Après, on écoutera les titres choisis par Andrea Santana. C'est un extrait du film Bamako d'Abderrahmane Sissoko, un extrait où l'actrice Aïssa Maïga chante une chanson, Abderrahmane Sissoko la filme en gros plan. Elle a des larmes qui perlent sur ses joues et elle a également des boucles d'oreilles en forme de larmes, enfin des perles comme ça. Alors pourquoi vous avez choisi cet extrait?
Eh bien, parce que, je sais pas, on a été, quand on a eu, le plus beau prix qu'on a eu sur notre film, là, puisque nous sommes nés, nous a été remis par Abderrahmane Sissako. C'était le prix au Festival International du Festival de Namur, francophone de Namur. Et donc, c'était le grand prix du festival, plus le prix du public. Mais c'est pas pour ça, c'est qu'on n'avait pas vu Bamako encore, parce qu'on était au Brésil quand il est sorti. Et donc, on s'est dépêché de voir Bamako. Et Bamako, mon Dieu, c'est un film fantastique, formidable, magnifique, de la manière dont un metteur en scène issu du continent africain peut traduire avec une autant de justesse qu'est-ce que c'est l'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'exploitation dont l'Afrique est victime, et puis travailler à lutter contre nos préjugés, contre les choses qu'on croit savoir et en fait on ne connaît rien. Et ce film est un hommage magnifique à la culture africaine.
On peut rappeler que c'est un procès fictif du FMI, de la Banque mondiale, qui et les responsables de ces institutions sont mis en accusation par des Africains.
Voilà, et devant un tribunal international avec des avocats partout et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a touché.
Le procès qui ne pourra jamais avoir lieu, mais qui a lieu au cinéma.
Au cinéma, voilà. Et cette femme-là dont il utilise la voix, enfin, c'est une chanson éthiopienne, enfin, ça vient d'Éthiopie, et la voix est magnifique. Encore une fois, une voix de femme. Bon, franchement, c'est à pleurer, quoi.
Voilà, c'était Aïssa Maïga, un extrait du film Bamako d'Abderrahmane Sissoko, que si vous n'avez toujours pas vu, nous vous encourageons à voir. Un très très beau film. Andrea Santana, je rappelle que vous êtes la co-réalisatrice de ce film Puisque nous sommes nés, avec Jean-Pierre Duret. Vous, vos choix, vous avez choisi des grands noms de la musique populaire brésilienne, Chico Buarque, Gaetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, qui est la sœur de Caetano Veloso. On va commencer par écouter des chansons de Chico Buarque. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez choisi ces chansons-là, et nous parler un peu de Chico Buarque, qui, je crois, est lui aussi à la base architecte.
Ouais. Et Jubadu aussi. Mais Vai Passar, c'est la première chanson que j'ai choisie. Ça parle beaucoup de mon histoire à moi, parce que je suis née au même temps que la dictature militaire au Brésil. J'ai vécu presque la moitié de ma vie sous la dictature. Et Chic Bouac, c'était très important pour nous parce que lui, il arrivait à parler de ce qu'on vivait, de l'espérance que les choses changent d'une façon très bien. Il fallait un peu, je sais pas, dribbler la censure parce qu'il ne pouvait pas parler tout ce qu'il voulait, mais il parlait quand même ce qu'il avait envie et nous, on comprenait très bien ce qu'il disait. Et on va pas ça. Hein,
ils ont fait de la prison pour ça d'ailleurs.
Ouais, oui, ils ont été exilés et tout. Mais va pas ça, ça parle d'un moment de. Enfin, c'est une chanson qui parle de l'espérance, tout ce cauchemar qu'on vivait. On était en train de vivre.
Ça a duré entre 65 et 85, c'est à peu près ça, 20 ans.
64 et 85, ouais. Et. Va pas ça, c'était aussi quand on écoutait ça. Ça parlait, ça donnait cette espérance que les choses allaient changer. En même temps, quand on chantait tous ensemble, c'était une espèce de catharsis collectif. C'était très, très émouvant. Et c'est un samba enredo qu'on appelle. C'était comme les sambas qu'on fait pour les écoles de samba au carnaval. Les écoles de samba au Brésil, elles défilent dans l'avenue comme ça pendant le carnaval et racontent toujours une histoire, enfin, les compositions. Et c'est très symbolique parce que c'est comme si on voyait vraiment notre histoire passer et vraiment s'en aller, comme le rythme, la façon de chanter, ça nous parlait de ces choses qu'on voulait vraiment dire au revoir. Et voilà, c'est la samba aussi, que c'est une chanson qui fait partie de notre culture, qui est dans notre peau. Quoi. C'est, voilà.
Eh ben on l'écoute. Allez, Chico Buarque.
Avenida um samba popula. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Andrea Santana, pardon. Est-ce que Nego et Cocada, les deux garçons que vous filmez dans Puisque nous sommes des, ces deux garçons du Nord-Est, scotchés dans une station service, écoutent cette musique?
Oui, ils écoutent. C'est pas vraiment celle-là qu'ils écoutent le plus, mais parce que, enfin, au Brésil, il y a une gamme musicale énorme. Et puis, comme c'est dans le Nord-Est, c'est beaucoup plus le shot, le forró, des musiques plus typiques du Nord-Est qui sont les plus écoutées par eux et par la population du Nord-Est. mais bon, ils connaissent.
Je ne l'ai pas vu le film, j'irai le voir ce soir, puisqu'il est projeté ici à 20h30, mais cette émission est diffusée samedi sur Radio Grenouille, mais nous l'enregistrons vendredi. Donc, et je ne crois pas qu'il soit à l'affiche à Marseille, ce film-là. Et, est-ce qu'il y a de la musique dedans? Qu'est-ce que vous avez mis comme musique dedans? Comment vous avez travaillé sur la question de la musique dans ce film documentaire?
En fait, Andrea va pas répondre parce que ça a été une bagarre entre nous, mais non. Sur ce film,
moi je voulais pas de musique.
Ouais, je voulais pas de musique, et puis, mais quand même sur ce film, on voulait pas de musique brésilienne parce qu'on voulait, pour nous, c'est un film universel. Donc on l'a tourné au Brésil, mais il fait référence à une situation qui pourrait avoir lieu partout dans le monde. Et donc on a travaillé avec un musicien de Montreuil. Il s'appelle Martin Wheeler, que je connaissais par l'intermédiaire d'Arnaud Despalières. Et on a tâtonné un peu, puis finalement, on a mis un truc de piano qui nous sert à faire une espèce de petite promenade chaque fois qu'on parce que le film raconte quand même beaucoup de choses intenses, donc à certains moments on fait une espèce de petite promenade hein, avec nos enfants, et que dès qu'ils se retrouvent tout seuls un peu comme ça, il y a cette petite musique, voilà.
On va écouter encore un titre de Chico Buarque.
Ouais. Oui, c'est vrai. Chico Buarque, c'est mon compositeur préféré. Et puis, je pense qu'il a quelque chose de très... il parle merveilleusement de toute la situation politique. Il est, on peut dire, un chanteur, un compositeur engagé. Mais il a aussi une façon de parler de l'amour, des chagrins d'amour, des relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, d'une façon merveilleuse. On dit même, il y a aussi ce qu'on appelle les femmes de Chico, parce qu'il parle très bien des femmes, et puis il parle souvent à la place des femmes, d'une façon que je pense que même une femme n'aurait pas pu. Et ça, c'est formidable, parce qu'il parle de tous les sorts de femmes de notre culture, et ça nous laisse très libres de s'identifier, de choisir un peu quelque chose par rapport à notre féminité. Et voilà, j'ai choisi une chanson qui est un peu très connue en France, mais il a des merveilles, surtout qu'il est un grand poète. Alors c'est vraiment dans les paroles que les choses sont dites le plus.
Je vous laisse l'annoncer, la chanson, comme ça.
Oui, c'est... c'est au meu amor, c'est une chanson qui fait partie d'une opéra, qui s'appelle l'opéra du Malandro. C'est basé sur l'opéra de Katsu de Brecht. Voilà, c'est un dialogue entre deux femmes qui aiment le même homme, une plus jeune, une plus âgée. Et voilà, c'est le dialogue, les deux épaves de cet homme qu'elles aiment. Moi, j'aime beaucoup.
Chico Buarque.
Manso que é só seu e que me deixa louca quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, o meu amor. É só seu que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu amigo e me crava os dentes. Ah, eu sou sua menina, vi, ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu amor tem um jeito manso que é só seu de me deixar maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita. Pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ai, meu amor, tem um jeito fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre e me deixar em brasa, desfrutar do meu corpo como se meu corpo fosse a sua casa. Ah, eu sou sua menina, ele é o meu rapaz, meu corpo é testemunha do bem.
C'est une playlist sur Radio Grenouille imaginée à l'occasion de la 10e édition du Festival international du film d'Aubagne. Une playlist signée Jean-Pierre Duré et Andrea Santana, les réalisateurs du documentaire Puisque nous sommes nés, qui a donc été à l'affiche une semaine aux Variétés à Marseille. Très peu de gens ont certainement pu le voir, mais qui est encore à l'affiche dans d'autres villes en France depuis le 4 février. Il est quand même.
Oui, on a quand même 18 copies qui circulent un peu partout en France. Sort d'une tournée, la semaine prochaine je suis dans le sud-est. Enfin, le film circule beaucoup, quoi.
L'enjeu, c'est de faire assez d'entrées pour que ça soit après acheté par les télés ou...
Non, l'enjeu, c'est qu'il soit vu. L'enjeu, c'est que on sait, quand
oui,
les gens.
Mais quand ça passe à la télé, c'est vu.
Ah, quand... Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même pas pour la télé après.
Bien sûr.
On espère que la télévision le prendra parce que, en tout cas, les gens qui voient le film sont très très contents. Ça crée des échanges extrêmement intéressants avec le public, et ça, on en était sûr. Hein, je veux dire, c'est les gens aujourd'hui, enfin, les gens attendent un regard comme ça. On est persuadé que ce film-là peut plaire à beaucoup de monde. Hein, bon, voilà, et simplement, on le vérifie. On le vérifie. Les gens partout, hein, ils attendent, ils se posent des questions sur le monde dans lequel on est. Et ils ont envie de faire des rencontres comme ça avec des films qui leur parlent de choses qu'ils ignorent ou qu'ils ne connaissent pas bien.
Andrea Santana, on continue d'écouter de la musique. Le prochain morceau que vous avez choisi, c'est Caetano Veloso et Gilberto Gil.
Ouais, c'est une ce sont les compositeurs. Mm-hmm. Ils s'appellent São João Xangô Menino. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle parle de quelque chose lié à cette chose formidable au Brésil, c'est le multiculturalisme, on peut dire. Et surtout le syncrétisme religieux, ça veut dire on mélange tout. Dans cette chanson, on a Saint Jean, c'est un son de l'Église catholique, on a Xangô et Oxós, ce sont des orixás afro-brésiliens. Il y a des historiens qui disent que les esclaves, quand ils sont venus au Brésil à l'époque coloniale, il y avait les jésuites qui essayaient de les catéchiser pour le catholicisme. Et puis, eux, ils étaient très malins, on va dire. Ils ont accepté ça et en même temps, ils ont gardé leur croyance. Et c'est de là qu'il vient ce mélange très pacifique qui existe au Brésil. C'est aussi une chanson que parle de São João, de la fête de São João. C'est une des fêtes les plus importantes du Nord-Est. C'est un peu pour remercier São João de la pluie qui est venue pendant l'hiver pour la plantation. Et c'est aussi à l'époque de la collecte du maïs. Alors toute la nourriture est faite avec du maïs, les boissons. Puis on fait le grand feu, on danse la quadrille, ça vient de la quadrille française. Alors c'est une fête qui a beaucoup à voir avec mes origines, parce que j'ai vécu ça toute ma vie. Et quand je retourne là-bas, c'est pareil, c'est une fête que j'adore. Et voilà, c'est une chanson qui me touche beaucoup pour ces raisons-là.
Xangô, menino, da fogueira de São João. Quero ser sempre o menino Xangô, da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão. Tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Viva São João! Viva São João! Olha meu amor. Veja como ele está lindo. Noite tão fria de junho, Xangô. Canto tanto, canto lindo. Como fogo de artifício. Quero ser sempre menino. As estrelas desse mundo, Xangô. Ai, São João, Xangô.
Voilà, ben on arrive à la toute fin de cette émission. Le temps passe vite, surtout quand on fait une écoute musicale aussi passionnante avec vous deux. Donc, dernière chanson choisie par Andrea Santana, il s'agit d'une chanson de Gilberto Gil.
Ouais, ça s'appelle Eu Vim da Bahia. C'est une chanson qui parle de la force d'un peuple, que surtout par rapport. Et ça parle de la faim, de la musique, de l'énergie qu'ils ont, et surtout d'un peuple, c'est le peuple nordestin qui parle, surtout le peuple de Bahia d'où il vient, et qui à travers la danse, la musique et la religiosité, ils arrivent à surmonter tous les obstacles qui existent. C'est aussi une chanson qui parle de l'endroit d'origine, de là d'où on vient, où il y a nos racines, et qu'on parfois on est obligé de quitter. Ça me touche beaucoup parce que moi j'ai quitté mon endroit d'origine, maintenant je vis en France, et j'aime beaucoup le Brésil. Ça me touche beaucoup aussi parce que je suis née à Bahia, et par des raisons politiques j'ai dû quitter la Bahia quand j'étais bébé. Ça c'est un manque, que même si j'ai retourné là-bas quelques fois après quand j'étais grande, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais en même temps ce n'est pas moi. Et quand ils chantent Eu Vim da Bahia, je me sens concerné, mais en même temps voilà, c'est après j'ai choisi aussi Gilberto Gil et Caetano Veloso, qui sont deux compositeurs qui viennent de Bahia, qui sont de Bahia, l'état du Brésil Bahia, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson là.
Et puis Bahia, c'est la ville des Noirs. C'est la ville la plus noire du Brésil. Donc c'est voilà, c'est, il y a aussi toute cette référence à l'esclavage. Ouais. Je voudrais juste rajouter aussi une chose, c'est que dans tout le choix qu'a fait Andrea, ce qui est manifeste, d'abord, c'est la grande variété des chansons brésiliennes. Et quand moi, petit Français, je suis arrivé la première fois au Brésil, ça m'a fasciné. Tout le monde chante. Tout le monde chante, et que les gens soient riches ou pauvres, ils ont cette passion pour la musique commune, et ça, c'est vraiment constitutif du Brésil. Si le Brésil a peut-être des frontières comme ça, un peu floues, mais la musique réunit ce peuple d'une manière extraordinaire.
Une dernière question, après on écoute le morceau, on est un peu serré par... Donc, qu'est-ce qui vous ont appris ces deux enfants que vous avez filmés dans Puisque nous sommes nés, avec qui vous avez passé très 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 longtemps, un bon moment en tout cas. Je sais pas combien de temps a pris le tournage, mais
six mois de tournage avec eux.
Vous avez appris quoi avec eux?
On a appris le courage. Je veux dire, c'est des gosses qui n'ont rien. C'est des gosses qui vraiment sont sur le fil. Hein, dans chaque jour, c'est une journée difficile, parce que et néanmoins, ce sont des gosses qui ont une conscience de leur présence au monde, un désir de vie farouche. Hein, et ça, c'est extraordinaire de le constater. Et ils ont une langue, ils ont leur langue, ils ont des mots pour le dire. Si vous voyez le film, si les gens voient le film, vous verrez à quel point ils sont presque comme des petits philosophes. Il y a des textes, des choses qu'ils disent, on dirait qu'ils sont tout droit sortis d'En attendant Godot. Quand vous voyez ça, alors que ce sont des gosses, des exclus, hein, véritablement, des gosses qui n'ont quasiment, je veux dire, même en rêvant, on peut croire qu'ils vont peut-être avoir aucun avenir, aucun futur possible.
Oui, il y en a un qui dit « je n'ai rien, je n'ai que ma vie ».«
Je n'ai rien, je n'ai que ma vie ». Ces gosses-là, c'est d'une tristesse infinie de constater à quel point ils sont vivants, à quel point ils ont mérité de vivre, et à quel point on ne va pas les laisser vivre. Et pourtant, ils ont des choses à nous apprendre. C'est ça qui est magnifique. Et nous avons appris plein de choses avec eux.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors, nous, en France, au Brésil, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
On peut déjà être conscient qu'ils sont là, qu'ils existent, et qu'ils n'existent pas avec, d'abord, en premier, c'est qu'ils sont de véritables êtres humains, complets, qu'ils ont une pensée. Parce que trop souvent, quand nous voyons les pauvres, nous voyons les stéréotypes de la pauvreté. Or, c'est ça l'objet de notre film. C'est montrer que derrière les stéréotypes de la pauvreté, il y a surtout des gens qui ont une conscience d'eux-mêmes, forte, farouche, enfin, qui ont une farouche envie de vivre largement autant que la nôtre. Et nous devons être conscients que ces gens-là existent. Et même si, parfois, nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous avons le devoir d'héberger leur espérance.
Mais vous pouvez aussi commencer en regardant le film, parce que c'est une rencontre que je trouve que c'est important.
Merci beaucoup Andrea Santana. Merci. Et Jean-Pierre Duré d'avoir passé ce moment avec nous. On se quitte donc en musique avec, je crains de le dire, Euvim de Bahia de Gilberto Gil.
Eu vim da Bahia.
Merci.
Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar. Tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Porque na Bahia tem mãe e manjá. De outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar. Tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Porque na Bahia tem mãe e manjá. De outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Eu volto, porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais.